Céline, Céline, tu voulais réagir au vote de la loi sur le voile intégral qui a été voté hier.
Et oui, effectivement, le voile a 6 mois pour mettre les voiles à compter de maintenant. Hier soir, en effet, le Sénat a choisi l'issue la plus funeste en votant à 246 voix contre une l'interdiction du port du voile intégral dans les lieux publics. Une femme portant la burqa, je rappelle, la burqa, c'est cela masque tout le corps, ou le niqab qui ne laisse voir que les yeux, se verra infliger une contravention de 150 € et ou d'un stage de citoyenneté. Pourquoi fallait-il absolument légiférer sur le port du voile intégral ? Eh bien, ces pratiques étant extrêmement minoritaires, environ 1900 femmes sur l'ensemble du territoire national, on peut se demander si le jeu en valait la chandelle. Personne ne nie que cette pratique vestimentaire soit particulièrement incommode et rétrograde ou qu'elle témoigne d'une relation entre hommes et femmes à l'opposé des valeurs égalitaires. Oui, le niqab diminue la vision latérale de ces femmes, les empêche de courir, de conduire une voiture ou de travailler. Oui, le niqab nie leur existence propre et leur possibilité de croiser le regard des autres jusqu'à la connivence d'un sourire, dirait Elisabeth Badinter. Oui, le niqab permet de contrôler le corps de la femme, de l'aliéner, de la soumettre à son entourage. Eh bien, ancestralement porté par la classe aisée, le niqab relèverait d'un communautarisme religieux, présenté à tort ou à raison, comme la marque de l'idéologie talibane ou du fondamentalisme musulman. On peut ajouter le fait que la burqa et le niqab ne seraient pas des prescriptions islamiques, mais relèverait plutôt de coutume. Seulement, évoquer qu'il s'agit de coutume pour ensuite dicter notre tolérance à l'égard de ce vêtement n'a aucun sens. On ne demande à personne d'approuver le port de la burqa, d'en apprécier l'esthétique ou d'en partager la dimension spirituelle, car il s'agit de savoir si l'on doit interdire ou pas une pratique, et non de dire si elle nous convient. Mais alors que fait-on de la liberté de conscience et de la liberté de choisir son mode de vie ? Ces libertés valent-elles seulement pour ceux dont nous partageons les idées ou les pratiques ? Ce n'est pas par des interdits que l'on règle ces questions, encore moins par des restrictions de liberté. La polygamie a certes été interdite, mais a-t-elle disparu ? Eh bien, pas le moins du monde. Des associations luttent toujours contre ce fléau. La vraie question qui se pose est la suivante. Eh bien, de quel droit allons-nous proscrire une pratique vestimentaire en raison de sa signification culturelle ? Pourquoi légiférer contre cet usage privé dès lors qu'il échappe en toute rigueur laïque à la sphère de la loi ? L'État laïque doit-il interférer dans les débats théologiques sur les signes extérieurs de la foi ? A-t-il aussi l'intention de légiférer contre les papillotes des juifs orthodoxes ou contre le foulard des musulmans ? Parle-t-on du voile intégral ou de n'importe quel voile ? Le discours du pouvoir s'empêtre dans la contradiction en voulant interdire au nom de la liberté une pratique qui ne semble pas être préjudiciable à la liberté d'autrui. Eh bien, pour en sortir, il sort son atout. En interdisant cette tenue dégradante, il s'agira de libérer des femmes qui sont opprimées par leur mari. Car on nous le certifie, ces femmes sont des victimes. Leur a-t-on demandé ? On serait sans doute surpris de certaines réponses à des questions qu'on se garde bien de leur poser. Ils rétorqueront que le poids de la tradition est tel qu'il façonne les comportements, c'est indéniable. Et c'est pourquoi il est vain d'interdire légalement une pratique traditionnelle à laquelle une communauté est attachée, au risque de produire l'effet inverse. Finalement, l'interdiction du voile intégral, qui se fonde prétendument sur l'exigence du vivre ensemble républicain, se solde par la légalisation de l'enfermement de ces femmes chez elles, leur oppression en définitive, et tout cela pour les sauver. Si les femmes qui portent la burqa sont contraintes de le faire par leur entourage, ce déni de liberté est déjà passible des tribunaux. Pourquoi une nouvelle loi alors ? Interdire cette pratique au motif qu'elle est imposée par la force serait légitime si on avait l'incertitude qu'elle l'est toujours. Mais est-ce vraiment le cas ? À vrai dire, non. En légiférant contre une tenue vestimentaire, on la décrète illégale comme telle, et non parce que l'entourage l'impose à l'intéressé. On veut donc dénier à celles qui l'ont adoptée librement le droit de le faire. On restreint leur liberté pour les rendre libres, on les opprime pour les sortir de leur oppression. Curieuse entreprise. Liberté au mari de s'habiller comme le prophète, mais interdiction à la femme de s'habiller comme la femme du prophète. Pourquoi leur dénier ce droit ? Au nom du trouble à l'ordre public, si c'était le cas, l'interdiction de dissimuler son visage ne s'appliquerait qu'aux administrations et transports et non à tous les espaces publics, rues incluses. Au nom de la dignité humaine peut être comprise de multiples manières. Si le gouvernement se souciait réellement de la dignité de la femme, il imposerait aux entreprises que les femmes soient payées le même salaire que leurs homologues masculins pour le même travail, non ? Mais on touche à l'intouchable, le sacro-saint profit, la religion du capital, religion des religions. Si le gouvernement se souciait de la dignité humaine, il n'y aurait ni chômage, ni sans-papiers, ni aucune exploitation, quelle qu'elle soit. Alors pourquoi leur dénier ce droit pour émanciper ces femmes contre leur gré, pour les libérer d'elles-mêmes? C'est absurde de penser qu'on puisse libérer quelqu'un contre son gré, et c'est pourtant le principal argument en faveur de l'interdiction. Mais derrière cette sollicitude pour les femmes opprimées, l'enjeu est double. Il s'agit tout d'abord de faire diversion, en occultant l'ensemble des problèmes sociaux liés à la crise économique et financière. Si la population concentre son regard sur les femmes voilées, elle oubliera la retraite à 62 ans, la casse des services publics, les nouvelles lois sur la vidéosurveillance, la malbouffe, les magouilles du pouvoir, la censure de la presse ou l'accroissement des richesses des hyper-riches. Elle ne verra pas les inégalités sociales intrinsèques au système capitaliste, elle verra les différences culturelles. Elle ne verra pas son voisin comme un esclave salarié, comme un allié de classe, mais comme un pestiféré, comme un ennemi à abattre. C'est vers la guerre civile interethnique que le pouvoir nous emmène. Il s'agit aussi pour le gouvernement de s'assurer les faveurs des électeurs sensibles au discours des populistes, en faisant le procès du fondamentalisme islamique. On connaît déjà cette ancienne. Les femmes voilées seraient la cinquième colonne du djihad. Notre président est-il plus royaliste que le roi? En effaçant la burqa du territoire français, on s'imagine participer au combat planétaire contre l'hydre islamiste. Mais lutter contre la burqa en l'interdisant sera-t-il plus efficace que lutter contre les talibans en bombardant des villages? Est-ce un hasard si les signataires de la loi sont les mêmes qui s'imaginaient qu'on allait libérer la femme afghane en utilisant des B-52? Est-elle sauvée pour autant? A-t-elle tissé du lien social? Est-elle digne? Est-elle l'égale de l'homme afghan? Évidemment que non. Pour conjurer le mal, ce gouvernement mise sur l'effet symbolique. Il faut, nous dit André Guérin, balayer devant sa porte. Balayer? Image lugubre. Faut-il balayer la burqa comme une saleté qui contamine la France? Si l'on comprend bien, il y a urgence à importer le conflit afghan sur notre sol. L'ennemi est parmi nous. Derrière chaque burqa ne se cache-t-il pas un taliban? Le nombre de femmes portant la burqa en France n'a pas d'importance, puisque la perception de la menace compte davantage que sa réalité. Le sort des femmes en burqa a-t-il autant d'importance que le regard porté sur elles par la population française? Et au-delà, sur cet islam radical, tout se passe comme si la visibilité de la différence culturelle, désormais intolérable, exigeait sa suppression physique, comme s'il fallait évacuer cette ignominie pour connaître la triple satisfaction de rester entre soi, d'enrayer la contagion du mal et de soulager sa conscience en volant au secours des victimes. Quand la femme pourra-t-elle disposer librement de son corps? Il est inégalitaire de lui imposer un voile comme il l'est tout autant de l'empêcher de le porter si elle le souhaite. Il faut s'opposer au voile intégral pour toute sa portée symbolique, mais il faut se battre de toutes ses forces pour que ces femmes aient la liberté de le porter. Les coups portés par le pouvoir aux libertés civiles comme la liberté d'organisation, d'expression, de conviction religieuse peuvent trop facilement être retournés contre le mouvement social et ses organisations. Il ne s'agit en aucun cas de défendre l'islam, mais la liberté de choix pour ces femmes musulmanes. Les interdictions en cascade du gouvernement contre nos libertés pourraient aboutir à des aberrations. Si la différence est source de nuisance, nous pourrions tous finir avec le même uniforme et une puce RFID sous la peau, et ce au nom de quoi? De la cohésion républicaine. Alors il faut régler les vrais problèmes, qui sont le chômage et les inégalités sociales, et non faire diversion en ciblant une minorité.